DW. Droits et libertés.
Cette semaine, on parle de sexe, ou plutôt de sexualité, et je vous propose une émission un peu plus scientifique que d'habitude. Sur l'antenne de la Deutsche Welle et dans Droits et Libertés, nous évoquons régulièrement les violations des droits humains, et notamment celles contre les minorités sexuelles. Et toutes nos émissions, nos publications qui ont trait à la communauté LGBTQI+, comme on l'appelle désormais, nous valent des tombereaux de critiques, voire d'insultes. Parce que les rapports sexuels entre adultes consentants, qui s'écartent de la norme hétérosexuelle, continue de choquer, de faire peur, de heurter. Alors cette semaine, nous allons revenir sur un entretien avec un militant ivoirien pour les droits des personnes homosexuelles en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et puis nous allons nous demander comment l'orientation sexuelle d'une personne se développe. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. La sexualité humaine est variée et l'attirance que l'on ressent vers une personne de même sexe ou de sexe opposé se construit en fait essentiellement au moment de la puberté. Dans un savant mélange de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, on en reparle juste après, mais auparavant, nous allons réécouter un extrait d'une interview du mois de septembre 2024. À l'époque, nous avions appelé Brice Dibailly, un militant associatif de Côte d'Ivoire, à un moment où le pays assistait à une recrudescence de propos et d'attaques homophobes. Il nous avait confirmé que l'homosexualité existe bien de tout temps en Afrique, indépendamment de la colonisation. Brice Donald Dibailly, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le directeur exécutif de l'association Gros Mots qui milite pour une meilleure visibilité mais aussi pour davantage de droits pour la communauté LGBT et vous êtes basé à Abidjan. D'abord, est-ce qu'on dit LGBT? Est-ce que vous préférez LGBTQI+ ou comment est-ce que vous vous dites?
Je souhaiterais plus LGBTQI+. Pour permettre à ce que toutes les minorités soient incluses.
Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de cette communauté LGBTQI+ ?
Ce sont les différents sigles qui réunissent les personnes non hétérosexuelles. Dans notre contexte africain, ce sont les personnes qui subissent toutes sortes de discriminations. Et les questions LGBT qui sont toujours prises comme bouc émissaire pour attaquer l'Occident.
Oui, parce qu'il y a un préjugé qui dit que l'homosexualité n'aurait pas existé en Afrique avant la colonisation, que c'était une importation des Occidentaux pour pervertir les Africains.
Nous, on le dit parfois, le problème de la société africaine, c'est l'ignorance et le manque de formation. Et l'homosexualité, ou disons toujours les pratiques sexuelles entre les personnes de même sexe ont toujours existé dans notre contexte. La preuve en est qu'il y a des thèmes linguistiques qui permettent d'identifier les personnes de notre communauté. Vous allez prendre comme au Sénégal, on vous dira les femmes transgenres, les gays sont appelés Gojigen. Et puis aussi dans d'autres peuples de notre continent africain, il y a plusieurs thèmes qui permettent d'identifier les membres de notre communauté. Nous, en Côte d'Ivoire, depuis 2022-2023, nous avons initié un projet sur la recherche des thèmes linguistiques dans nos différentes dialectes locales qui permettent d'identifier les personnes LGBTQ grâce au partenaire ISDAO. Et nous avons sillonné différentes régions du pays. On a pu déterminer différents thèmes linguistiques dans notre dialecte ivoirien qui permet d'identifier les membres de notre communauté, post-colonial et pré-colonial. Mais je peux vous assurer que nous sommes dans de bonnes voies et ces recherches ont prouvé que s'il y a des thèmes linguistiques qui permettent d'identifier les membres de notre communauté, bien évidemment, cela prouve que les minorités sexuelles ont toujours existé dans notre contexte africain.
Et est-ce qu'il y a quand même des lieux, sans les nommer, mais des sortes de lieux où les membres de la communauté LGBTQI+ peuvent se rencontrer, au moins dans les villes?
Et nous, dans ce qu'on appelle ces lieux-là, les points chauds, les bérets, comme on le dit, c'est des espaces où les membres de la communauté peuvent se réunir en toute discrétion pour échanger, pour partager les inquiétudes bien avant ces événements, les inquiétudes, les peurs du contexte, les stress, et aussi pour rire, pour revendiquer notre fierté, pour être dans la joie. C'est lui les sites où je peux dire même des bars, des coins discrets, des parcs où les membres de la communauté peuvent se rencontrer dans toute discrétion. Le message que je peux passer à toute personne ici de notre communauté qui découvre sa sexualité, c'est de vivre avec beaucoup d'attention et prudence sa sexualité. Éviter de se faire remarquer dans sa zone, faire beaucoup attention. Et puis aussi de contacter les associations qui militent en faveur de la communauté. Voilà, peut-être beaucoup de membres de la communauté n'ont pas suffisamment de formation sur comment vivre sa sexualité, sur comment exister dans un contexte homophobe. Donc, que ces personnes-là prennent attache avec les associations. Nous avons notre plateforme en ligne. Vous pouvez nous contacter afin que nous puissions vous accompagner dans ce processus.
DW.
Le 17 mai 1990, donc il y a seulement 35 ans, l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Cette classification avait permis pendant des décennies de placer les personnes homosexuelles dans des asiles de fous ou de les emprisonner, voire de les traiter, entre guillemets, en leur infligeant des thérapies à base d'électrochocs et d'autres formes de violence, soi-disant donc pour les guérir. Aujourd'hui, la science est unanime, les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles ne sont pas malades et elles ne l'ont jamais été. C'est ce qu'explique le professeur docteur Klaus Bayer. Il dirige l'Institut de recherche sur les sciences de la sexualité et la médecine sexuelle à l'hôpital de la Charité à Berlin.
Il est désormais clair que personne ne choisit son orientation sexuelle. C'est un destin et non un choix. Sous l'influence des hormones sexuelles, à la puberté, ce que les spécialistes appellent la structure des préférences sexuelles se développe. Et là, dès l'adolescence, nous sommes en quelque sorte programmés pour être attirés par des personnes d'un certain sexe. C'est là que se développe aussi le schéma corporel, les types de personnes qui nous attirent et les interactions sexuelles que l'on souhaite avoir avec elles.
Selon le docteur Bayer, une fois que la préférence sexuelle d'une personne est établie durant sa jeunesse, elle est immuable.
Cette préférence se forme à l'adolescence et reste ensuite stable tout au long de la vie, malgré le souhait de certaines personnes de voir une orientation sexuelle changer, par exemple à cause de la pression sociale, pour être comme tout le monde.
Les droits de l'homme universels incluent le droit à une orientation sexuelle libre. La sexualité n'est pas un phénomène de mode et on l'a entendu tout à l'heure, les variations possibles n'existent pas que dans les sociétés particulièrement libérales.
D'après les données dont nous disposons, l'orientation vers le même sexe représente environ 3 à 5% de la population. Et cela vaut pour toutes les cultures. La sexualité humaine est comme ça. Elle se caractérise par cette diversité.
Et pourtant, l'orientation sexuelle de nombreux individus continue de polariser des sociétés entières. Cela conduit à l'exclusion, à la discrimination et parfois à la persécution violente. L'homosexualité, par exemple, est punie par la loi dans au moins 67 pays. Près de la moitié des pays du monde où l'homosexualité est pénalisée se trouvent en Afrique. Seuls 22 des 54 États africains officiels ont légalisé l'homosexualité. Dans certains pays, elle est punie de prison. Dans 4 pays, la Mauritanie, le Nigeria, la Somalie et le Soudan du Sud, elle est passible de la peine de mort. La charia, c'est-à-dire la loi islamique, y étant appliquée. Comment se développe donc l'orientation sexuelle de quelqu'un? Eh bien, la question est simple, mais il est difficile de lui apporter une seule réponse simple et définitive. Il n'y a pas de cause unique à l'orientation sexuelle, mais plutôt différents modèles d'explication génétique, hormonale et d'interprétation socioculturelle.
Jusqu'à présent, personne n'a pu identifier des facteurs uniques qui pourraient expliquer qu'une personne soit orientée vers des personnes de même sexe et une autre vers le sexe opposé.
On peut donc supposer qu'une interaction complexe de plusieurs facteurs biologiques et sociaux est responsable du développement de l'orientation sexuelle. Pour en parler, nous accueillons Carole Assignon. Bonjour.
Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre spécialiste santé et vous nous parlez des facteurs biologiques étudiés par les chercheurs.
Parmi les facteurs d'influence biologique, eh bien, les scientifiques ont étudié des gènes, donc l'hérédité, les hormones, prénatal et les substances chimiques. L'orientation sexuelle n'est pas innée, elle n'est donc pas héréditaire. Il est vrai que des études sur les familles et sur les jumeaux montrent une accumulation d'homosexualité dans certaines familles. Mais les marqueurs génétiques trouvés sont, il faut le dire, peu significatifs, ce qui signifie donc qu'il n'existe pas de gène de l'homosexualité unique. Pour ce qui est des hormones et des autres substances chimiques, il est possible que la testostérone ou les phéromones jouent un rôle dans le développement de l'orientation sexuelle. Les phéromones sont des substances odorantes qui influencent le comportement sexuel, on le rappelle. Des études montrent que les phéromones masculines stimulent l'activité de l'hypothalamus, aussi bien chez les femmes hétérosexuelles que chez les hommes homosexuels, mais pas chez les hommes hétérosexuels. Alors pour rappel, l'hypothalamus, c'est une glande qui influence notre comportement instinctif et nos fonctions sexuelles. Mais il y a aussi de nombreux facteurs sociaux qui peuvent intervenir dans le développement de telle ou telle orientation sexuelle.
Merci Carole. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que parmi ces facteurs sociaux, l'éducation des enfants ne semble pas jouer de rôle dans leur orientation sexuelle d'adulte. Mais dans le fond, le fait que les enfants soient soutenus ou rejetés par leurs parents est décisif pour le développement de leur identité. Car encore une fois, d'un point de vue scientifique, aucune orientation sexuelle n'est une maladie ou n'est contre nature. Ce qui est toléré ou ce qui est considéré comme normal ou contre nature, donc, est déterminé par des normes sociales. Ces normes peuvent varier considérablement en fonction de l'époque ou du contexte, mais la nature de l'être humain, elle, reste la même partout. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir écoutée. Merci à Alexandra Freund aussi pour les sons. Si vous souhaitez la réécouter ou la podcaster, rendez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.